test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre l'histoire de Chase Devino, un inspecteur de police qui poursuit une criminelle. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Installé dans une voiture aux courbes racées, l'inspecteur Chase Devino agrippait le volant à s'en blanchir les phalanges. Ces deux derniers jours, depuis que la rumeur avait annoncé l'arrivée dans sa ville de la célèbre voleuse internationale Carmen Sandiego, l'agent français d'Interpol avait consacré chaque instant à organiser sa capture. Tout le monde était aux trousses de Carmen Sandiego, mais elle avait réussi jusque-là à échapper aux forces de police du monde entier. Chase n'avait pas fermé l'œil et n'avait rien avalé car il savait que c'était sûrement sa seule chance de l'arrêter. La super voleuse était enfin sous sa juridiction et il n'allait pas laisser passer cette précieuse occasion. « Je vais la coincer même si je dois y laisser la peau », se dit-il. Il se tourna vers Julia Argent assise à ses côtés. Studieuse, elle faisait défiler des données sur l'écran de sa tablette. Julia était une nouvelle recrue d'Interpol, avec des cheveux noirs, lisses, coupés très courts, et des lunettes rondes qui amplifiaient encore ses grands yeux marrons. Elle était d'origine sino-britannique et était particulièrement douée en langue et en histoire, mais son vrai talent, c'était de résoudre des problèmes grâce à la logique. Chase avait compris après seulement quelques jours que l'intellect de Julia compensait largement son manque d'expérience. Et il ne l'aurait jamais avoué, mais ça l'intimidait. Julia ajusta ses lunettes et examina sur son écran une série de photographies floues. Elles représentaient toutes la même femme, dans divers décors plus ou moins exotiques. Sur l'une d'elles, elle quittait une banque à Hong Kong. Sur une autre, elle montait dans un train en Norvège. À chaque fois, la mystérieuse femme portait le même imper rouge vif et un chapeau assorti à large bord, parfaitement incliné sur son front. Mais son visage était toujours caché, comme si elle savait exactement à quel moment détourner la tête. Rien que ces dernières semaines, Carmen Sandiego a volé des millions à une banque en Suisse, à une galerie d'art du Caire et à un parc d'attractions à Shanghai, s'exclama Chase en resserrant encore son étreinte sur le volant. Julia hocha la tête, toujours absorbée par les données sur son écran. « Nous n'avons pas encore pu discerner un schéma directeur. Vous ne trouvez pas ça étrange, monsieur, qu'elle semble toujours annoncer ses crimes en faisant une apparition auparavant, comme lorsqu'on l'a aperçue dans un café, ici à Poitiers, un peu plus tôt dans la journée ?» Chase grommela dans sa barbe. La même question le tourmentait depuis des semaines. Pourquoi une voleuse attirerait-elle l'attention de la sorte en semant des indices et en portant une couleur aussi vive? Tout ça n'était-il qu'un jeu pour Carmen Sandiego? Attrape-moi si tu peux, semblait-elle lui dire. Il écarta cette idée d'un revers de la main. Peu importe, dit-il fermement. Mademoiselle Argent, elle est dans ma ville cette fois, et c'est moi qui vais l'arrêter. Soudain, une forme rouge traversant la rue devant leur voiture attira l'attention de Julia. Elle en eut le souffle coupé. Serait-ce possible? Mais Devino continuait à parler, sans voir la silhouette écarlate juste devant lui. « Bon, vous êtes une petite nouvelle, alors restez assise bien gentiment, regardez ce que je fais, et je vais vous apprendre à coincer une voleuse, moi. » Julia se redressa d'un seul coup et pointa précipitamment son doigt. « Monsieur, elle est juste là !» Agacé par cette interruption, Chase se tourna lentement dans la direction indiquée par Julia en poussant un soupir. « Les bleus sont vraiment montés sur ressort de nos jours, » se dit-il. Installé dans une voiture aux courbes racées, l'inspecteur Chase Devino agrippait le volant à s'en blanchir les phalanges. Ces deux derniers jours, depuis que la rumeur avait annoncé l'arrivée dans sa ville de la célèbre voleuse internationale Carmen Sandiego, l'agent français d'Interpol avait consacré chaque instant à organiser sa capture. Tout le monde était aux trousses de Carmen Sandiego, mais elle avait réussi jusque-là à échapper aux forces de police du monde entier. Chase n'avait pas fermé l'œil et n'avait rien avalé car il savait que c'était sûrement sa seule chance de l'arrêter. La supervoleuse était enfin sous sa juridiction et il n'allait pas laisser passer cette précieuse occasion. « Je vais la coincer même si je dois y laisser la peau », se dit-il. Il se tourna vers Julia Argent assise à ses côtés. Studieuse, elle faisait défiler des données sur l'écran de sa tablette. Julia était une nouvelle recrue d'Interpol, avec des cheveux noirs, lisses, coupés très courts, et des lunettes rondes qui amplifiaient encore ses grands yeux marrons. Elle était d'origine sino-britannique et était particulièrement douée en langue et en histoire, mais son vrai talent, c'était de résoudre des problèmes grâce à la logique. Chase avait compris après seulement quelques jours que l'intellect de Julia compensait largement son manque d'expérience. Et il ne l'aurait jamais avoué, mais ça l'intimidait. Julia ajusta ses lunettes et examina sur son écran une série de photographies floues. Elles représentaient toutes la même femme, dans divers décors plus ou moins exotiques. Sur l'une d'elles, elle quittait une banque à Hong Kong. Sur une autre, elle montait dans un train en Norvège. À chaque fois, la mystérieuse femme portait le même imper rouge vif et un chapeau assorti à large bord, parfaitement incliné sur son front. Mais son visage était toujours caché, comme si elle savait exactement à quel moment détourner la tête. Rien que ces dernières semaines, Carmen Sandiego a volé des millions à une banque en Suisse, à une galerie d'art du Caire et à un parc d'attractions à Shanghai, s'exclama Chase en resserrant encore son étreinte sur le volant. Julia hocha la tête, toujours absorbée par les données sur son écran. « Nous n'avons pas encore pu discerner un schéma directeur. Vous ne trouvez pas ça étrange, monsieur, qu'elle semble toujours annoncer ses crimes en faisant une apparition auparavant, comme lorsqu'on l'a aperçue dans un café, ici à Poitiers, un peu plus tôt dans la journée ?» Chase grommela dans sa barbe. La même question le tourmentait depuis des semaines. Pourquoi une voleuse attirerait-elle l'attention de la sorte en semant des indices et en portant une couleur aussi vive? Tout ça n'était-il qu'un jeu pour Carmen Sandiego? Attrape-moi si tu peux, semblait-elle lui dire. Il écarta cette idée d'un revers de la main. Peu importe, dit-il fermement. Mademoiselle Argent, elle est dans ma ville cette fois, et c'est moi qui vais l'arrêter. Soudain, une forme rouge traversant la rue devant leur voiture attira l'attention de Julia. Elle en eut le souffle coupé. Serait-ce possible? Mais Devino continuait à parler, sans voir la silhouette écarlate juste devant lui. « Bon, vous êtes une petite nouvelle, alors restez assise bien gentiment, regardez ce que je fais, et je vais vous apprendre à coincer une voleuse, moi. » Julia se redressa d'un seul coup et pointa précipitamment son doigt. « Monsieur, elle est juste là !» Agacé par cette interruption, Chase se tourna lentement dans la direction indiquée par Julia en poussant un soupir. « Les bleus sont vraiment montés sur ressort de nos jours, » se dit-il.
Exercice 2. Vous allez entendre une interview sur l'ouverture d'un nouveau restaurant. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 6 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Norbert.
Bonjour Jules.
Après un mois d'installation sur Rennes, est-ce que les Bretons raffolent des hamburgers ?
Alors écoutez, pour l'instant je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. On est installé que depuis le 28 juillet. On a ouvert en même temps en plein été, donc tout le monde n'était pas là. Beaucoup étaient en vacances et certains ne savent peut-être même pas encore qu'on est ouvert. En revanche, sur les clients que l'on a pu avoir, ils ont été nombreux d'ailleurs depuis l'ouverture. Malgré l'été, on était quand même attendus. On a des très bons retours quant à la qualité, quant à l'originalité. Donc je dirais que oui, ils aiment beaucoup ce qu'on leur a préparé et que c'est certainement de bon augure pour la suite.
Et qu'est-ce qui fait que vos burgers sont d'authentiques produits à la française ?
Ah, ça c'est une bonne question. Alors c'est plusieurs facteurs qui sont combinés et qui font que on revendique le fait de faire des hamburgers ou des burgers. Donc c'est un terme qui a été francisé évidemment, mais pas simplement le terme. On travaille aujourd'hui alors avec une recette typiquement française de boulangerie pour le pain par exemple. Donc c'est un boulanger local qui nous livre les pains tous les jours. On travaille sur de la viande bovine française race à viande. Et j'insiste sur le viande bovine française puisque ce sont des bêtes qui sont sélectionnées en France, qui sont nées, élevées, malheureusement abattues et aussi transformées et conditionnées en France. Même le poulet, ce qui est aujourd'hui assez rare dans la restauration, il vient plutôt d'outre-Atlantique. Donc c'est vraiment très typiquement une filière française pour toute la viande. On travaille aussi des sauces maison, et donc en ça, c'est plutôt des recettes.
Bonjour Norbert.
Bonjour Jules.
Après un mois d'installation sur Rennes, est-ce que les Bretons raffolent des hamburgers ?
Alors écoutez, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. On est installé que depuis le 28 juillet. On a ouvert en même temps en plein été, donc tout le monde n'était pas là. Beaucoup étaient en vacances et certains ne savent peut-être même pas encore qu'on est ouvert. En revanche, sur les clients que l'on a pu avoir, ils ont été nombreux d'ailleurs depuis l'ouverture. Malgré l'été, on était quand même attendus. On a des très bons retours quant à la qualité, quant à l'originalité. Donc je dirais que oui, ils aiment beaucoup ce qu'on leur a préparé et que c'est certainement de bon augure pour la suite.
Et qu'est-ce qui fait que vos burgers sont d'authentiques produits à la française ?
Ah, ça c'est une bonne question. alors c'est plusieurs facteurs qui sont combinés et qui font que on revendique le fait de faire des hamburgers ou des burgers. Donc c'est un terme qui a été francisé évidemment, mais pas simplement le terme. On travaille aujourd'hui alors avec une recette typiquement française de boulangerie pour le pain par exemple. Donc c'est un boulanger local qui nous livre les pains tous les jours. On travaille sur de la viande bovine française race à viande. Et j'insiste sur le viande bovine française puisque ce sont des bêtes qui sont sélectionnées en France, qui sont nées, élevées, malheureusement abattues et aussi transformées et conditionnées en France. Même le poulet, ce qui est aujourd'hui assez rare dans la restauration, il vient plutôt d'outre-Atlantique. Donc c'est vraiment très typiquement une filière française pour toute la viande. On travaille aussi des sauces maison, et donc en ça, c'est plutôt des recettes.
Exercice 3. Vous allez entendre une interview avec l'auteur d'un livre sur l'avenir de la robotisation. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 9 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Violence et infox sur les réseaux sociaux, peur des robots ou de la cybercriminalité, les raisons d'avoir peur du progrès technologique se multiplient. Bonjour Guy Mamouani.
Bonjour.
Vous êtes coprésident du groupe Open, une société de grande société de conseil et de solutions informatiques. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et ancien vice-président du Conseil national du numérique. Et vous prenez le contre-pied de ce que je viens de dire, car vous signez un livre qui s'intitule « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Guy Mamoumani, y a-t-il encore des raisons d'avoir vraiment confiance dans le numérique?
Non, mais c'est très intéressant votre introduction, parce que elle résume parfaitement les raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. C'est pour répondre à tous ces oiseaux de mauvais augure, toute cette ambiance très anxiogène autour du numérique. Alors que moi, je suis un praticien, hein, puisque j'aide des entreprises, l'État, à se moderniser, à se transformer. Mmh. Et j'y vois beaucoup, beaucoup d'avantages et beaucoup de solutions, tout en restant conscient des risques et sans angélisme.
Alors, vous passez en revue dans votre livre l'impact du numérique dans de nombreux secteurs, industrie, santé, éducation, etc. Bon, dans l'industrie, par exemple, vous parlez des robots, évidemment, sujet incontournable. En ce moment, il y a une question sur laquelle les experts n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que la robotisation va supprimer des emplois ou au contraire en créer? Ou, dans tous les cas, quel sera le solde à l'arrivée? Il sera positif ou il sera négatif pour l'emploi en général et pour notre vie aussi?
Cette question existe depuis des millénaires, et je cite dans mon livre l'empereur Tibère, là, qui avait je crois que c'est Nicolas Bouzou, hein, qui a cité cet exemple-là, qui est très bon. Il avait tué l'inventeur d'un verre incassable parce qu'il craignait que ça supprime des emplois. Et après, on l'a vu ça depuis dans toutes les révolutions. Il y a quelque chose qu'il faut d'abord souligner. Oui, bien sûr, les robots, alors, dans un premier temps, comme le numérique en général, va supprimer des emplois. Mais ce que l'on voit après, c'est que ça nous redonne une compétitivité, une créativité, une invention qui fait qu'on en recrée au moins autant. Et il y a un exemple que je cite et qui, je crois, est incontestable. On constate que c'est dans les pays qui sont les plus robotisés où il y a le moins de chômage.
Mais on voit aussi, Guy Mamoumani, les premières désillusions liées à la robotique. Par exemple, au Japon, récemment, un hôtel a licencié, entre guillemets, tous les robots qui avaient été mis en place pour notamment accueillir les clients.
Eh ben, tant mieux. Ça prouve bien que l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Vraiment, j'étais très heureux d'entendre cette nouvelle parce que je pense en effet que la robotisation n'est pas la panacée, qu'on va pas tout robotiser. C'est pour ça d'ailleurs que je cite beaucoup d'exemples dans ce livre de métiers qu'il ne faut pas changer par le numérique.
Alors parmi les nombreuses accusations aujourd'hui dont fait l'objet la révolution numérique, pour employer des grands mots, il y a celui des inégalités. Le numérique creuserait les inégalités entre les plus riches qui aujourd'hui concentrent les données, concentrent les grandes plateformes, etc. Et puis les autres, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est un vrai risque. D'ailleurs, le ministre Majoubi l'adresse quotidiennement. Hein. Il parle de ces 13 millions de Français qui sont dans la rupture numérique et il veut les inclure, il a parfaitement raison. Mais en même temps, je vois, moi, dans mon quotidien et dans mon engagement, toutes les opportunités que le numérique a créées, mais aussi facteurs de mixité. Puisque là,
alors oui, c'est l'un de vos grands combats, les femmes dans le numérique. Les femmes qui ne représentent que 30% des personnes qui travaillent dans les start-up, comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut faire mieux ?
Alors, c'est 30% quand on y inclut les fonctions transversales, RH, commercial, marketing. Mais quand on parle technique, on est à moins de 10%, ce qui est un énorme gâchis. Et comme je leur dis souvent, et je suis assez critiqué pour ça, arrêtez de faire médecine et choisissez des métiers où il y a vraiment du boulot et qui sont bien payés.
Merci Guy Mamoumani, auteur de L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Violence et infox sur les réseaux sociaux, peur des robots ou de la cybercriminalité, les raisons d'avoir peur du progrès technologique se multiplient. Bonjour Guy Mamoumani.
Bonjour.
Vous êtes co-président du groupe Open, une société de grande société de conseil et de solutions informatiques. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et ancien vice-président du Conseil national du numérique. Et vous prenez le contre-pied de ce que je viens de dire, car vous signez un livre qui s'intitule « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Guy Mamoumani, y a-t-il encore des raisons d'avoir vraiment confiance dans le numérique ?
Non, mais c'est très intéressant votre introduction, parce que elle résume parfaitement les raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. C'est pour répondre à tous ces oiseaux de mauvais augure, toute cette ambiance très anxiogène autour du numérique. Alors que moi, je suis un praticien, puisque j'aide des entreprises, l'État, à se moderniser, à se transformer. Mmh. Et j'y vois beaucoup, beaucoup d'avantages et beaucoup de solutions, tout en restant conscient des risques et sans angélisme.
Alors, vous passez en revue dans votre livre l'impact du numérique dans de nombreux secteurs, industrie, santé, éducation, etc. Bon, dans l'industrie, par exemple, vous parlez des robots, évidemment, sujet incontournable. En ce moment, il y a une question sur laquelle les experts n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que la robotisation va supprimer des emplois ou au contraire en créer ? Ou, dans tous les cas, quel sera le solde à l'arrivée ? Il sera positif ou il sera négatif ? Pour l'emploi en général et pour notre vie aussi.
Cette question existe depuis des millénaires. Et je cite dans mon livre l'empereur Tibère, là, qui avait, je crois que c'est Nicolas Bouzou, qui a cité cet exemple-là, qui est très bon. Il avait tué l'inventeur d'un verre incassable parce qu'il craignait que ça supprime des emplois. Et après, on l'a vu ça depuis dans toutes les révolutions. Il y a quelque chose qu'il faut d'abord souligner. Oui, bien sûr, les robots, alors, dans un premier temps, comme le numérique en général, va supprimer des emplois. Mais ce que l'on voit après, c'est que ça nous redonne une compétitivité, une créativité, une invention qui fait qu'on en recrée au moins autant. Et il y a un exemple que je cite et qui, je crois, est incontestable. On constate que c'est dans les pays qui sont les plus robotisés où il y a le moins de chômage.
Mais on voit aussi, Guy Mamoumani, les premières désillusions liées à la robotique. Par exemple, au Japon, récemment, un hôtel a licencié, entre guillemets, tous les robots qui avaient été mis en place pour notamment accueillir les clients.
Eh ben, tant mieux. Ça prouve bien que l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Vraiment, j'étais très heureux d'entendre cette nouvelle parce que je pense en effet que la robotisation n'est pas la panacée, qu'on va pas tout robotiser. C'est pour ça d'ailleurs que je cite beaucoup d'exemples dans ce livre de métiers qu'il ne faut pas changer par le numérique.
Alors parmi les nombreuses accusations aujourd'hui dont fait l'objet la révolution numérique, pour employer des grands mots, il y a celui des inégalités. Le numérique creuserait les inégalités entre les plus riches qui aujourd'hui concentrent les données, concentrent les grandes plateformes, etc. Et puis les autres, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est un vrai risque. D'ailleurs, le ministre Majoubi l'adresse quotidiennement. Il parle de ces 13 millions de Français qui sont dans la rupture numérique et il veut les inclure, il a parfaitement raison. Mais en même temps, je vois, moi, dans mon quotidien et dans mon engagement, toutes les opportunités que le numérique a créées, mais aussi facteurs de mixité. Puisque là,
alors c'est l'un de vos grands combats, les femmes dans le numérique. Les femmes qui ne représentent que 30% des personnes qui travaillent dans les start-up, comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut faire mieux ?
Alors, c'est 30% quand on y inclut les fonctions transversales, RH, commercial, marketing. Mais quand on parle technique, on est à moins de 10%, ce qui est un énorme gâchis. Et comme je leur dis souvent, et je suis assez critiqué pour ça, arrêtez de faire médecine et choisissez des métiers où il y a vraiment du boulot et qui sont bien payés.
Merci Guy Mamoumani, auteur de « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu » aux éditions de l'Observatoire.
Exercice 4. Vous allez entendre des gens parler de leur travail dans les médias. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, reliez les personnes avec leurs affirmations A à K. Il y a deux affirmations dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses. Exemple.
Alors ma journée type en ce moment, elle se passe beaucoup avec des développeurs et des designers puisque je suis vraiment en cours de développement du site internet qui sera en ligne d'ici 2 mois. Et puis je travaille aussi beaucoup sur tout le travail de mon offre commerciale pour pouvoir très très vite démarcher des clients dès que je serai opérationnelle.
Personne 1.
Mon activité principale, donc c'est ma passion. Donc je suis un authentique passionné des réseaux sociaux. Je suis présent sur Twitter depuis pas mal de temps déjà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir mon prénom sur Twitter, donc c'est @Mehdi. C'est quelque chose, un privilège assez rare. Et ce que je fais, c'est au jour le jour, je regarde les conversations du web pour le bénéfice d'Orange, pour savoir ce que les gens pensent fondamentalement d'Orange, ce qui fait que je transforme l'Internet francophone en une sorte de grand focus group qui permet de savoir en temps réel quelle est l'opinion profonde des gens sur Orange, sur ses produits, sur ses services et sur ses campagnes de communication.
Personne 2.
L'activité consiste à donner les news sur le plan économique, politique surtout, sportive et culturel. Africa 24 a un réseau de correspondants dans la plupart des pays, en Afrique de l'Ouest centrale, au Maghreb, et là ça se développe pour tout ce qui est pour la partie anglophone. Je prends connaissance de l'actualité avant d'arriver au boulot. Ensuite, il faut l'analyser. Il y a une conférence de rédaction dans laquelle on choisit les sujets qu'on va diffuser. Et on attribue les sujets aux correspondants. Et ensuite, je rédige mon JT que je présente en 10 minutes.
Personne 3.
Nous sommes un groupe de presse, nous diffusons les dépêches de Brazzaville, qui est le quotidien le plus lu dans le bassin du Congo. J'aide à la notoriété du groupe du bassin du Congo. Voilà, donc je communique sur ce groupe et j'essaye de trouver un certain nombre d'experts, de chefs d'État, de chefs d'entreprise qui sont liés à l'Afrique et qui vont donner leur expertise sur ce monde qui est en train d'émerger.
Personne 4.
Mon travail consiste à trouver de nouveaux concepts d'émissions de télévision et à m'occuper au sein de ma chaîne France 2, qui est la première chaîne du service public en France, de tous les animateurs de jeux et de tous les animateurs des divertissements, Michel Drucker, Patrick Sébastien, Nagui, Stéphane Bern, Marianne James, de toutes les émissions musicales. Ma journée type, j'ai des réunions à 9h le matin, ensuite je cours sur les plateaux de télévision de différentes émissions, j'écoute des albums, je lis des concepts et j'essaye de trouver les émissions qui feront les succès sur ma chaîne de demain.
Personne 5.
Alors mes activités principales, c'est que je suis là pour diriger la rédaction à mon niveau d'adjoint auprès du directeur de la rédaction qui s'appelle Alexis Brézet. Je suis éditorialiste et puis j'ai une émission quotidienne sur le site internet du Figaro qui s'appelle Le Talk et j'interviens pas mal dans les médias, dans les débats, dans des talk shows. Une journée type, ça commence le matin par une télévision ou une radio très tôt le matin et puis ça se termine généralement par une télévision très tard le soir.
Exemple.
Alors ma journée type en ce moment, elle se passe beaucoup avec des développeurs et des designers puisque je suis vraiment en cours de développement du site internet qui sera en ligne d'ici 2 mois. Et puis je travaille aussi beaucoup sur tout le travail de mon offre commerciale pour pouvoir très très vite démarcher des clients dès que je serai opérationnelle.
Personne 1.
Mon activité principale, donc c'est ma passion. Donc je suis un authentique passionné des réseaux sociaux. Je suis présent sur Twitter depuis pas mal de temps déjà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir mon prénom sur Twitter, donc c'est @Mehdi. C'est quelque chose, un privilège assez rare. Et ce que je fais, c'est au jour le jour, je regarde les conversations du web pour le bénéfice d'Orange, pour savoir ce que les gens pensent fondamentalement d'Orange, ce qui fait que je transforme l'Internet francophone en une sorte de grand focus group qui permet de savoir en temps réel quelle est l'opinion profonde des gens sur Orange, sur ses produits, sur ses services et sur ses campagnes de communication.
Personne 2.
L'activité consiste à donner les news sur le plan économique, politique surtout, sportive et culturel. Africa 24 a un réseau de correspondants dans la plupart des pays, en Afrique de l'Ouest centrale, au Maghreb, et là ça se développe pour tout ce qui est pour la partie anglophone. Je prends connaissance de l'actualité avant d'arriver au boulot. Ensuite, il faut l'analyser. Il y a une conférence de rédaction dans laquelle on choisit les sujets qu'on va diffuser. Et on attribue les sujets aux correspondants. Et ensuite, je rédige mon JT que je présente en 10 minutes.
Personne 3.
Nous sommes un groupe de presse, nous diffusons les dépêches de Brazzaville, qui est le quotidien le plus lu dans le bassin du Congo. J'aide à la notoriété du groupe du bassin du Congo. Voilà, donc je communique sur ce groupe et j'essaye de trouver un certain nombre d'experts, de chefs d'État, de chefs d'entreprise qui sont liés à l'Afrique et qui vont donner leur expertise sur ce monde qui est en train d'émerger.
Personne 4.
Mon travail consiste à trouver de nouveaux concepts d'émissions de télévision et à m'occuper au sein de ma chaîne France 2, qui est la première chaîne du service public en France, de tous les animateurs de jeux et de tous les animateurs des divertissements, Michel Drucker, Patrick Sébastien, Nagui, Stéphane Bern, Marianne James, de toutes les émissions musicales. Ma journée type, j'ai des réunions à 9h le matin, ensuite je cours sur les plateaux de télévision de différentes émissions, j'écoute des albums, je lis des concepts et j'essaye de trouver les émissions qui feront les succès sur ma chaîne de demain.
Personne 5.
Alors mes activités principales, c'est que je suis là pour diriger la rédaction à mon niveau d'adjoint auprès du directeur de la rédaction qui s'appelle Alexis Brézet. Je suis éditorialiste et puis j'ai une émission quotidienne sur le site internet du Figaro qui s'appelle Le Talk et j'interviens pas mal dans les médias, dans les débats, dans des talk shows. Une journée type, ça commence le matin par une télévision ou une radio très tôt le matin et puis ça se termine généralement par une télévision très tard le soir.
C'est la fin du test de compréhension orale.